Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez, chers amis. Après avoir parlé de ce match des municipales un an et un mois avant le scrutin, on va se replonger pendant une heure et ça va vous faire du bien dans la sagesse des mythes. De Thésée à Ulysse, la mythologie grecque continue de fasciner toutes les générations et le musée Louvre-Lens dans les Hauts-de-France consacre d'ailleurs à Homère une exposition d'ampleur retraçant le récit de l'Iliade et de l'Odyssée. Comment ces mythes, comment leurs images, comment leur morale nous ont-ils marqués et quels éclairages apportent-ils encore sur notre société, sur notre présent et sur notre avenir? Eh bien, je reçois deux passionnés de la question, le philosophe, auteur, ancien ministre Luc Ferry et le scénariste, dessinateur, journaliste Jules, auteur notamment de 50 nuances de grec. Vos témoignages, votre expérience, votre fascination, tout cela est le bienvenu au Standard d'Europe 1. On vous attend, Julie, jusqu'à 11h.
Hein. Au 39-21, 50 centimes la minute.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et cette mythologie qui passionne de 7 à 77 ans, au bas mot, bonjour Luc Ferry.
Oui, au bas mot, c'est plutôt de 5 à 80.
C'est ce que j'allais dire, il faut revisiter notre...
Ma maman, qui a 95 ans, lit avec assiduité toutes les BD que Glénat publie sur la mythologie grecque.
Et pas simplement parce que c'est son fils hein, qui l'est.
Bon, il y a peut-être un peu de ça quand même.
Non, mais parce que c'est passionnant. J'ai sous les yeux, chez Glénat notamment, pour les adultes, la sagesse des mythes Tantale et autres mythes de l'orgueil, Jason et la toison d'or. Oui. Et dans la version Glénat jeunesse, je me suis régalée hier soir en lisant Thésée ou la loi du courage. Vous m'avez permis de me remettre à jour sur l'un de ces mythes. On va en parler dans le détail. Luc Ferry, merci d'être avec nous
avec
sur
Europe
1 ce matin. Face à un autre amoureux de cette mythologie grecque, bonjour Jules.
Bonjour.
Vous me signalez que ces 50 nuances de grec, vous écrivez en ce moment le prochain tome, je crois, se sont déjà vendues à 150 000 exemplaires. Il y a toute une littérature BD autour de la mythologie grecque d'ailleurs, et vous la connaissez bien, chez Dargaud, chez Glénat, qui explique qu'on a envie de se replonger dans ces mythes avec intelligence, avec la finesse et l'information nécessaire, mais aussi avec ce prisme de l'image, Jules, qui est important pour parler justement de ces héros et de ces légendes.
Sans doute, parce que l'image a toujours pris une place très très importante. On a toute une iconographie extraordinaire à partir de cette période-là. Cette antiquité grecque, elle nous a fourni des canons artistiques et matières à penser depuis des siècles et des siècles. On s'en est réemparé, évidemment, à la Renaissance, mais voilà, ça nous habite. Et jusqu'aux jeux vidéo et aux applications téléphoniques, on est encore complètement baigné dans cette iconographie-là. Alors bien sûr, la bande dessinée, c'est foisonnant comme la mythologie grecque. Mmh. Les bandes dessinées de Luc Ferry, elles retournent aux sources, elles remettent en lumière les mythes avec justement toutes leurs articulations. Moi, ce que je fais avec Charles Pépin, c'est que on récupère ces mythes et on les cogne, un petit peu comme deux pierres de silex avec lesquelles on voudrait faire une étincelle. On les cogne avec notre époque contemporaine et ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. On transpose les dieux, les grands mythes, les grands héros dans des situations contemporaines et on se dit, est-ce que ça a encore quelque chose à nous apprendre?
Oui.
Et ces deux approches-là,
vous avez la même démarche, hein.
Elles sont complémentaires. Absolument. Parce que voilà, ça reflète cette espèce de grande actualité de cette mythologie aujourd'hui.
Bien sûr, avec pour ambition d'aider, cher Luc Ferry, les enfants, les parents de ces enfants aussi à comprendre une histoire parfois un peu rébarbative, parce que la généalogie est très importante, mais comme professeur, comme papa aussi, vous savez combien cette mythologie captive.
Oui, puis c'est ce qu'il y a de plus cultivant, en fait. Ce qui est assez fascinant dans l'histoire de l'Europe, c'est qu'il y a deux toutes petites cités qui vont avoir une postérité étonnante et considérable. C'est Jérusalem et Athènes, évidemment. Mmh. On est à la fois juif chrétien d'un côté et grec de l'autre. Alors, le pari que nous avons, aussi bien dans les BD que dans la littérature de jeunesse chez Glénat, c'est en effet de repartir des textes originaux, donc repartir des matrices, parce que pour chaque mythe, il y a des dizaines de versions parfois différentes, parce que la mythologie, ça va du 8e siècle avant Jésus-Christ, depuis l'Odyssée d'Homère ou la Théogonie d'Hésiode, 7e siècle, jusqu'à Nonos de Panopolis, des mythographes qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Mais il y a des versions très différentes pour chacun des mythes, pour Jason, pour Héraclès, pour Thésée, etc. Et donc, le pari de cette collection, c'est que ce soit au niveau du Collège de France, et parce qu'il y a une profondeur de ces mythes, il y a un message philosophique, un message de sagesse qui est extraordinairement profond et qu'on trouve souvent davantage davantage dans les premières versions que dans les versions plus ou moins dégradées. Donc l'idée, bien sûr que ça parle à tout le monde, sinon c'est comme les évangiles, c'est comme la Bible, elles sont des textes qu'on lit encore aujourd'hui. Il y a des milliards de gens, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde. Bon, de la même manière, dans toutes les universités, dans toutes les écoles du monde, on parle d'Homère et des mythes grecs. Donc c'est qu'il y a un message dedans qui est extraordinairement profond. Et le pari, encore une fois, de ces deux collections, c'est d'être fidèle à ce message originel, y compris d'ailleurs dans l'iconographie, comme le disait très bien Jules, on a tout ce qu'il faut pour savoir à quoi ressemblaient les vêtements, les vases, les armes, les couverts dans les maisons, tout ça.
Et vous faites un point d'honneur à être dans le détail.
Et donc on a un point d'honneur à être même dans les couleurs et dans tout ce que... c'est comme si vous retombiez dans le 8e siècle avant Jésus-Christ. Quand vous ouvrez ces BD, c'est Didier Paoli, grand dessinateur qui est maître d'œuvre de ce chantier pour ce qui est du dessin. Et c'est vrai que les BD sont... Vraiment, c'est comme si vous retombiez dans la Grèce de l'époque.
Absolument. Un an de travail.
Pour chaque album, c'est un an de travail.
Ouais. Nous avons déjà un petit message de Laurine sur le hashtag Europe 1.
Oui, un tweet. La mythologie est la base de nos civilisations. C'est elle qui a permis l'évolution des religions. L'histoire de nos sociétés est issue des conquêtes de la Grèce, de la Mésopotamie, de l'Égypte. Les techniques elles-mêmes nous sont parvenues grâce aux textes mythologiques historiques.
C'est cette empreinte très moderne qui explique aussi l'attirance que nous avons pour les mythes, et les mythes grecs en particulier, Jules.
Voilà, parce que dans 50 nuances de grec, on n'est pas juste en train de souligner que Héraclès, c'est une marque de serrurerie, Hermès, c'est une marque de foulard.
Et Midas, des pots d'échappement.
Et Hestia, une marque d'assurance domicile. Dans ces résonances, par exemple, là, c'est drôle parce que je vois que les deux albums qui sont sur le plateau là, de Luc Ferry, il y a Tantale d'un côté et la légende de Jason et de la Toison d'or de l'autre. Justement, moi je viens de finir ces nouvelles pages là, pour le tome 2 des 50 nuances. Et Tantale, en fait, il y a ce mythe, cette punition de Tantale qui est immergé, attaché à moitié dans un fleuve. Et alors à chaque fois qu'il veut boire, il se penche, le fleuve descend. À chaque fois qu'il veut manger un fruit qui est avec une branche au-dessus de lui, la branche se lève et il ne peut pas manger. Donc c'est cette torture-là. Et en plus, moi, je lui rajoute une punition, c'est que Zeus lui a fait croire qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Et de l'autre côté, Jason, les toisons d'or. En fait, le problème, c'est que Jason, il bloque le rond-point à la sortie de Corinthe. C'est le mouvement des toisons jaunes et qui fout un peu le why dans la mythologie.
C'est ça qui est sympa aussi avec la retranscription des mythes. Regardez, je vous fais juste lire cette retranscription du mythe de Sisyphe version Jules, ça s'appelle boule, donc une boule comme une boule qu'on roule.
Boule et bile comme la bile, parce qu'on est un peu énervé.
Vous pouvez nous décrire cette
page? Oui, c'est Sisyphe, on connaît. Donc Sisyphe qui fait rouler son rocher jusqu'en haut de la montagne, et puis le rocher retombe de l'autre côté, et puis encore une fois, de nouveau, il la remonte ad libitum. Et cette torture-là, en fait, c'est une espèce d'énorme rocher avec marqué réforme dessus. Puis les gens disent, on a bien fait de nommer Sisyphe ministre de l'Éducation nationale.
Alors, pour montrer la différence des approches, c'est en effet complémentaire. Dans le mythe de Tantale, il y a un élément qu'on oublie toujours, pratiquement tout le monde l'oublie, c'est que non seulement le malheureux Tantale ne peut pas boire ni manger, c'est sa punition. Pourquoi ? Parce qu'il a péché par la nourriture. Et dans la mythologie grecque, toujours, il n'y a aucune exception, la punition est toujours en rapport avec le crime commis. Oui. Elle est toujours symboliquement la même chose que le crime commis. Et ce qu'a fait Tantale, il s'est pris pour un dieu, il a péché parce que les Grecs appellent l'hubris, la démesure, l'arrogance, l'orgueil. Il s'est pris pour un dieu et il a donné, pour vérifier si les dieux étaient vraiment omniscients ou pas, il leur a donné de la chair humaine à manger, et en particulier une chair humaine particulièrement iconoclaste, si je puis dire, puisqu'il a donné son fils à manger.
Il a trouvé le meilleur moyen de babysitting
pour voir si c'était... Et en fait, il s'est pris pour un dieu, mais Tantale n'est qu'un mortel. Et au-dessus de sa tête, non seulement il ne peut pas boire ni manger, mais au-dessus de sa tête, il y a un énorme rocher qui menace en permanence de l'écraser. Et c'est pour lui rappeler qu'il n'est pas un dieu, qu'il est un mortel. Sur le temple d'Apollon, il y a écrit « Rien de trop ». Connais-toi toi-même, ça veut dire ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Je ne veux pas être grossier, mais dans une chanson de Brassens, on dirait ne pète pas plus haut que ton cul. C'est très très élégant ce que je viens de dire, mais c'est exactement ça que ça veut dire, l'hubris. Ne te prends. Et Tantale, c'est ça son péché. Il s'est pris pour un dieu, et ce rocher qui se balance au-dessus de sa tête, c'est pour dire qu'il est mortel et que si jamais il fait une bêtise, il va être écrasé. Donc là, le message est extrêmement profond parce que l'idée de la démesure, de l'arrogance, de l'hubris, comme disent les Grecs, c'est l'idée que les humains sont les seuls êtres capables de menacer, on est déjà dans l'écologie contemporaine, de menacer le cosmos, de détruire l'univers que Zeus a installé après la guerre contre les titans. Donc on a à chaque fois des messages qui sont incroyablement profonds, et le pari de cette collection, c'est même si c'est pour les enfants, et même surtout si c'est pour les enfants, c'est de bien rappeler ces messages originaux, parce que c'est ça qui fait que ça a traversé les millénaires. Ça fait 3000 ans qu'on lit cette mythologie grecque. Et s'il n'y avait pas un message extrêmement profond, on ne la lirait plus.
D'où le titre de cette collection, La sagesse des mythes, la leçon, les sentences aussi, la morale liée à ces différents mythes. On va voir leur empreinte très contemporaine, la modernité des récits pour la plupart. Luc Ferry et Jules sont avec nous chez Glénat ou chez Dargaud. On se prend de passion, les lecteurs aussi, pour cette mythologie grecque, et on en parle jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous explorons ce matin un domaine passionnant, la mythologie, de Thésée à Ulysse. Que reste-t-il de la mythologie dans notre société? Ben, il reste des expressions, déjà, on en parlait.
Plus de 100.
Oui, moi j'ai compté 120, c'est beaucoup plus que de la Bible. Dans la Bible, il y a des expressions qui sont passées dans le langage courant, comme, je ne sais pas, moi, vendre son âme pour un plat de lentilles, par exemple, on connaît tout ça. Mais dans la mythologie grecque...
Oui, c'est la Bible.
Dans la mythologie grecque, il y en a au moins 10 fois plus. Prendre le taureau par les cornes, toucher le pactole, suivre un fil d'Ariane, jurer comme un charretier, tout ça vient de la mythologie grecque. Et chaque fois, d'ailleurs dans les BD, à la fin des BD, je raconte chaque fois l'origine de ces expressions. Par exemple, toucher le pactole, c'est une expression que j'aime beaucoup. C'est quand Midas a demandé à Dionysos d'avoir le toucher d'or, c'est-à-dire de pouvoir transformer tout ce qui touche en or. Eh bien, il s'aperçoit évidemment que ça l'empêche de manger et de boire, parce qu'il prend une cuisse de poulet, mais ça devient une cuisse en or, donc c'est pas très bon à manger. Et donc, il va supplier Dionysos de retirer ce fameux toucher d'or. Et Dionysos lui dit, va te baigner dans un fleuve qui s'appelle le fleuve Pactole. Et quand il se baigne dans le fleuve, eh bien, le fleuve va charrier des pépites d'or, et donc toucher le pactole, ça vient de cet épisode de la mythologie de Midas. Voilà. Donc, et comme ça, j'en raconte 120 parce qu'elles sont toutes très, très amusantes, et la plupart du temps, on ignore maintenant d'où elles viennent.
Luc Ferry, spécialiste de la mythologie grecque, auteur de La sagesse des mythes pour les adultes, mais pour les plus jeunes aussi. J'ai sous les yeux Thésée ou la loi du courage chez Glénat Jeunesse, on en parlera. Vous voulez réagir, cher Jules, sur la loi du pactole?
Oui, non, mais en fait, tout est lié. Il y a un côté marabout, bout de ficelle dans la mythologie, ce qui permet aussi d'avoir un système global de compréhension du monde. Ah, et alors, pour continuer cette histoire du pactole, en fait, le pactole, il coule et il descend de Lydie en Phrygie et il arrive chez le roi Crésus. Mm-hmm. Et en fait, pourquoi est-ce que le roi Crésus est tellement enrichi? C'est parce qu'en fait, c'était une rivière aurifère qui traversait ses terres. Il y a eu des paillettes d'or enrichi grâce au mythe de Dionysos.
On va retourner en primaire grâce à vous deux.
Mais oui, c'est
parce que, non, mais franchement,
peut-être on donnera le sens des mythes, parce qu'il y a un sens global qui est absolument génial. C'est toujours le même. Il n'y a aucune exception. Mais peut-être tout à l'heure, je ne vais pas vous...
Si, allez-y maintenant.
Ce qui se passe, c'est que, en fait, la structure est celle-là. C'est pour ça que ça a marché. C'est comme l'évangile, il y a un message très fort. La structure, il n'y en a qu'une, elle est pratiquement toujours la même. Zeus a gagné la guerre contre les titans, les premiers dieux, qui sont des dieux de la violence, du chaos et de la guerre. Ce sont des dieux féroces. D'ailleurs, on parle encore aujourd'hui d'une force titanesque. Ça vient encore de cette... Et Zeus partage le monde et il crée ce que les Grecs appellent un cosmos, c'est-à-dire un monde harmonieux, paisible. C'est le fameux calme olympien. Et donc, une fois qu'il a gagné la guerre, le monde est bien partagé. Mais ça devient très ennuyeux, parce que la paix, ça peut être très ennuyeux. Et donc, les 14 Olympiens s'ennuient, et Zeus a l'idée de créer les mortels pour justement redonner de la vie dans cet univers qui n'en a plus. Et donc, il demande à Épiméthée et Prométhée de créer les mortels, les animaux et les humains. Et à partir de là, on va avoir des êtres humains qui vont se révolter contre le cosmos. C'est le cas de Tantale, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure. Et ces êtres humains, ils sont, à la différence des lions ou des ours ou des éléphants, ils sont, comme ils ont les arts, les techniques et le feu que on leur a donné, que Prométhée leur a donné, ils sont capables de détruire l'ordre du monde. Et c'est ça la structure de la mythologie grecque. Il y a ces humains qui sont capables de détruire le cosmos que Zeus a installé.
Oui.
Et voilà pourquoi Zeus va prendre des lieutenants, c'est au fond des gens qui tiennent lieu de Zeus, pour rétablir l'ordre. Alors c'est le cas d'Héraclès, les travaux d'Héraclès, ça n'est que ça.
Oui.
C'est le cas de Thésée, c'est le cas de Persée, c'est le cas de Jason. Pratiquement tous les grands héros sont là pour aller, si je puis dire, casser la gueule à des monstres ou à des humains qui menacent de détruire le cosmos. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste une phrase: si le cosmos était détruit, eh bien les humains ne pourraient pas trouver le sens de leur vie, ils ne pourraient pas trouver la vie bonne, parce que pour les Grecs, et c'est toute l'histoire d'Ulysse, de l'Odyssée, la vie bonne, c'est quoi? C'est juste ça, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde, avec l'harmonie cosmique que Zeus a installée après la guerre contre les titans. Donc vous voyez, il y a une structure qui est extrêmement puissante, très profonde, il ne faut jamais la perdre de vue si on veut interpréter, si on veut comprendre ces mythes. Donc à chaque fois, dans les BD, à la fin des BD, je raconte non seulement les expressions qui viennent des différents mythes, comme toucher le pactole quand on raconte l'affaire de Midas, ou prendre le taureau par les cornes quand on raconte la mythologie de Jason, parce que c'est une des épreuves de Jason, de prendre un taureau par les cornes. Mais je raconte aussi pourquoi ces mythes mettent en scène la question du sens de la vie, c'est-à-dire la question de la vie bonne, parce que ces monstres ou ces humains qui menacent le cosmos, s'ils arrivaient à détruire le cosmos, c'est la possibilité même de mettre sa vie en harmonie avec l'harmonie du monde. On est déjà dans l'écologie contemporaine.
Complètement,
bien sûr.
C'est ça qui est très fort aussi sur.
Alors, je m'arrête là, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment génial, quoi. C'est pour ça que le parti pris, c'est quand même de revenir aux sources, parce que c'est quand même un message absolument grandiose, quoi, fascinant, et c'est pour ça que ça marche encore.
Absolument. Et juste après la pause, je vais vous faire réagir après cette belle définition de cette sagesse grecque exposée par Luc Ferry. Je vais vous faire réagir, Jules, sur l'arbre généalogique de ces dieux olympiens, parce que
c'est génial,
il faut peut-être
aussi
l'avoir sous les yeux régulièrement, mais vous allez nous dire comment on s'y retrouve finalement, voilà, comment on tisse le fil avec nous jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Les mythes antiques continuent de nous fasciner. On en parle avec Jules et avec Luc Ferry.
Ils sont passionnants tous les deux, Luc Ferry, auteur notamment d'Ulysse ou L'homme aux mille ruses, de Thésée ou La loi du courage, nouvelle collection de livres illustrés pour les enfants à partir de 9 ans, mais même un petit peu avant.
Oui.
Ouais, franchement, vous pouvez les lire à vos enfants, c'est passionnant, qui paraît mercredi prochain pour Thésée aux éditions Glénat. Jules est avec nous, 150 000 exemplaires vendus de ses 50 nuances de grec. Le tome 2 est en écriture, vous avez écrit bien d'autres choses, vous êtes passionné aussi pour les histoires et pour les affaires préhistoriques dans Silex and the City, mais on s'intéresse d'abord avec vous et dans cette émission aux dieux olympiens. Ils sont 14 et nous avons l'arbre généalogique sous les yeux. Si vous nous suivez sur europe1.fr, je vous le montre parce qu'il faut quasiment l'avoir en permanence pour s'y retrouver quand même.
Ça,
dans
c'est
cette
sûr,
écologie.
Et encore les olympiens, on y voit à peu près clair, mais c'est bien pire d'être quand on rentre un petit peu dans le détail. Le problème, c'est que c'était tous des coureurs, voire des harceleurs en chef. C'est-à-dire, heureusement qu'il n'y avait pas le hashtag MeToo à l'époque, parce que les viols, les harcèlements, ce n'est que ça. C'est-à-dire, c'est sexe et violence quand même. C'est une télénovelas parfaite. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Grecflix ou aux chaînes ou à la box de Pandore qui vous donne tous les programmes de l'époque, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements. Et effectivement, comme ils ont tous, en plus sous des formes diverses, parce qu'ils se métamorphosent, Zeus, qu'il soit métamorphosé en nuage, en taureau blanc ou en pluie d'or, il a une progéniture infinie, et ça, c'est un peu du même tonneau pour la plupart de ses frères, sœurs, cousins. Du coup, on a du mal à s'y retrouver. En plus, il y a des noms qui varient. Mais par contre, donc moi j'ai un peu la tête comme une citrouille quand je travaille sur 50 nuances de grec, mais mes enfants, eux qui ont une mémoire encyclopédique, et je crois que Luc Ferry c'était la même chose avec les siens, c'est-à-dire il y a une façon de se remémorer tout ça, et en fait ils collectionnent les généalogies grecques comme on collectionnerait les Pokémon rares, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont capables, dans certains trucs d'Heroic Fantasy, de savoir exactement qui est le fils de qui, et pour la mythologie c'est pareil, et très souvent elle me corrigeait, c'est-à-dire quand j'avais des petites erreurs en disant mais c'est en fait c'est le deuxième enfant qui est aussi le cousin d'un tel, en fait c'est bien plus que les potins dans Voici ou dans Gala, ils savent exactement à quelle actualité de coucherie et de tromperie on se trouve à tel moment de la mythologie.
Parce que par exemple, pour Thésée, on a un père céleste et un père terrestre. Et ça, c'est très courant dans la mythologie grecque.
Oui, c'est souvent qu'il y a un père qui est un dieu, un père qui est un humain. Ça leur permet d'avoir des qualités incroyables. Par exemple, Thésée, donc, qui est un des fils de Poséidon, ça lui permet de plonger dans l'eau, de récupérer une bague au fond de l'océan et de snober ses ennemis. Mais c'est vrai que la généalogie... Enfin, ce qui est très, très bizarre, c'est qu'il y a des milliers de personnages dans la mythologie. Il y a des milliers d'histoires. Ouais. Et donc, c'est quand même incroyable qu'un tout petit peuple, ce petit peuple grec de rien du tout à l'époque, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment Athènes et Jérusalem. C'est deux tout petites villes, deux petites cités. Et ils inventent, les Juifs inventent le monothéisme et l'histoire sans fin, si je puis dire, l'histoire utopique et messianique. Et les Grecs vont inventer cette histoire de cosmologie. C'est la première grande réponse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. Donc en fait, toute la philosophie va en sortir. Mais ils inventent ça dans une littérature, si je puis dire, une littérature presque sans auteur, parce que même Homère, on ne sait pas qui c'est. Bon, il y a quelques grands auteurs comme les tragédiens, mais sinon, c'est comme les contes de fées, c'est-à-dire que ça prolifère dans les familles sans qu'il y ait des auteurs derrière, attestés, visibles. Et ils vont inventer cette mythologie. C'est des milliers de mythes et de personnages qui... Et ce que disait Jules est très exact. Ils sont tous connectés. C'est pour ça qu'on devient fou quand on... Moi, ça fait 40 ans.
Ils ont inventé le web.
Un psychiatre, parce qu'ils sont tous reliés. Même le cheval du lys a une généalogie, il a des qualités.
Je vous arrête un instant, parce que vous parlez d'Athènes et de Jérusalem. Ouais. Mais ouais. Rome, dans tout ça, parce qu'à chaque fois, nous avons l'équivalent aussi latin de ces dieux grecs, Dionysos Bacchus, Athéna Minerve, Poséidon Neptune.
Je suis d'accord avec Paul Venn, c'est-à-dire que les Romains, contrairement à ce que dit mon camarade Onfray, sont quand même des clones des Grecs. C'est-à-dire que Minerve, c'est Athéna, Jupiter, c'est Zeus, etc.
Donc, se sont appropriés la mythologie grecque.
Bien sûr, et même la philosophie. Marc Aurèle, c'est Épictète. Lucrèce, c'est Épicure, etc. Donc, en fait, la matrice est grecque. Alors, ça ne veut pas dire que les grands auteurs romains ne sont pas des. Il y a des génies. Marc Aurèle est génial. Bon, ou Lucrèce est génial, peut-être encore plus d'ailleurs. Mais enfin, toute la matrice est grecque, évidemment.
Oui. Ils nous ont compliqué la tâche, hein, parce qu'en fait, Zeus et Jupiter sont les mêmes, mais simplement, ils ont récupéré le.
La mythologie grecque. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de... C'est-à-dire, c'est ce que dit Cicéron. Cicéron, dans un livre qui s'appelle « De la nature des dieux »,« De natura deorum », pour faire cuistre, explique que, évidemment, tout vient de la mythologie et de la philosophie grecque. C'est une espèce de sécularisation ou de vulgarisation de la philosophie grecque. Là, Onfray se trompe tout à fait. C'est vraiment la matrice est grecque à 100%.
Merci. Alors, de temps en temps, il y a des petites modifications. Les latins ont tendance à rendre les trucs un petit peu plus kawaii, un petit peu plus mignon. Alors, si vous prenez Eros, qui est quand même... quelque chose d'assez fort de café dans la mythologie grecque, ça devient Cupidon, un petit angelot à cul nu comme ça qui volait au-dessus en balançant ses flèches en attendant l'invention des applications de rencontre.
Pour le dessinateur, c'est mieux.
Ah, c'est pas mal. Ça m'a plu aussi. Mais par exemple, il y a un truc incroyable qu'ils ont pu inventer, c'est les Grecs. Ils ont pressenti la gestation pour autrui, être né dans la cuisse de Jupiter. Vous savez, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire des implants de dieux à l'intérieur d'autres dieux. Et puis, il y a des histoires qui sont absolument terribles. Bouchez-vous les oreilles s'il y a des enfants. Oui. Mais l'histoire, la naissance d'Erichthonios, en fait, c'est Dionysos, Héphaïstos qui essaie de se taper sa sœur Athéna. Mm. Et donc, en fait, elle le rejette. Finalement, il éjacule sur sa cuisse. Alors, elle trouve ça dégoûtant. Elle s'essuie avec un bout de laine qu'elle a trouvé. Elle jette le bout de laine par terre qui féconde la terre, Gaïa. Donc, finalement, il y a un enfant qui naît, Erichthonios, qui finit par être adopté par Athéna, qui a un petit peu pitié de cet enfant.
Rejeton, ouais.
Et donc, je ne sais pas si vous voyez.
C'est délicat ce que tu viens de dire. Mais...
Ouais. Écoutez,
il a dit bouchez-vous les oreilles.
Gros bisous à tous les obstétriciens qui nous écoutent.
Non, mais ce qui est là, toi, t'as raison.
Il y a des choses très violentes et glauques dans la mythologie grecque, quand même. Faut le dire. Du viol, de l'inceste.
Il y a du mensonge, il y a de la guerre, il y a des trahisons. Alors, de la sexualité absolument partout. Bon, mais cela dit, dans la Bible aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus divers, beaucoup plus complexe que la Bible. La Bible a un schéma qui est beaucoup plus simple, à mon avis. Mais là, c'est vraiment. Il y a toute la grandeur de l'humain et toutes les saloperies humaines.
Et aujourd'hui, la mythologie grecque serait sans doute censurée par Facebook et YouTube. Hein, parce que là,
c'est le cas aux États-Unis. Il y a des trucs que tu ne peux pas enseigner aux États-Unis. C'est impossible.
Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que...
Tu l'as vu à la Sorbonne, ils ont interdit de jouer, une pièce de...
Les personnages grimés en noir. Mais du coup, par exemple... j'ai plus ce que je veux dire.
Pour retrouver, non ?
Mnémosyne.
Non, voilà. Bon, c'est dommage, parce que c'était bien parti.
Oui, en plus, c'était sur la mémoire, donc c'est un vrai lapsus.
Voilà, c'est la déesse du post-it.
On va revenir, en tout cas, sur la morale ou l'immoralité d'un certain nombre de mythes aussi. Je pense à cette histoire alors vas-y.
Oui. Parce que 50 nuances de règles, donc il y a la bande dessinée, puis il y a le dessin animé aussi sur Arte. Oui, et à chaque fois, le générique du dessin animé qui est assez compacté, ça raconte la théogonie, en fait, la naissance des grands dieux à partir du chaos primordial. Mmh. Et évidemment, donc il y a les testicules tranchés qui tombent dans la mer, qui engendrent d'autres dieux, etc. Et en fait, ce truc-là de coucherie, de gens qui vomissent leurs enfants, c'est vraiment à la base de la mythologie. Ça plaît à énormément de profs de l'aide classique qui montrent ces dessins animés des 50 nuances de grec à leurs élèves. Mais il y en a d'autres qui censurent ça et qui veulent pas que les élèves le lisent au CDI. Et donc, il y a des débats maintenant sur les réseaux sociaux entre différents profs de l'aide classique, entre ceux qui veulent justement censurer parce qu'ils trouvent ça un petit peu trop hard, et puis ceux qui disent, mais au contraire, c'est ça la mythologie.
Et vous êtes fiers de vous. Mais hein, parce que
on
vous
a exactement le même problème avec les BD.
Le débat.
Ouais. Parce que dans les BD, il y a une librairie catholique, pour le dire carrément, qui a censuré nos BD. Parce que, alors que, franchement, franchement, c'est pas très cochon les BD, mais il y a une BD où on voit deux personnages qui font l'amour et il y a une très très jolie femme dont on voit les seins. Et donc ça, il y a une librairie catholique qui a refusé de diffuser, de mettre, d'exposer ces BD. On a le même.
Mais je parie que votre tome sur Priap, il sera sous blister. Hein.
Priap et enfin.
Le Priapisme.
C'est
en
des choses qui arrivent pourtant.
On a fait cette exégèse, c'est très bien déjà. Cher Jules, la mythologie antique en question qui continue de nous séduire, de nous fasciner avec tant de résonance et puis une crudité hein, manifeste mais qui explique aussi sa permanence.
On en parle
jusqu'à 11h. Merci Jules et Luc Ferry pour nous éclairer sur le sujet et Hélène voudra témoigner au 3921.
La mythologie grecque continue de fasciner toutes les générations. Pourquoi est-ce qu'on en parle ce matin? À l'occasion d'une exposition organisée par le musée Louvre-Lens dans les Hauts-de-Seine. Exposition qui retrace le récit de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Oui. On en parle avec deux passionnés de la question, le philosophe, auteur, ancien ministre Luc Ferry et le scénariste, dessinateur, journaliste Jules.
L'Iliade et l'Odyssée, le verbe de Jules et de Luc Ferry, passionné en effet, matrice de l'histoire, de toute la philosophie finalement, cette histoire d'Ulysse, et vous lui consacrez une BD, Luc Ferry. Il faut commencer peut-être par ce mythe-là pour comprendre.
Oui, plus par l'Odyssée que par l'Iliade. L'Iliade, oui. Il y a des passages quand même très, très ennuyeux, mais le catalogue des vaisseaux, c'est pas... Mais l'Odyssée, c'est vraiment, vraiment génial. Et l'Odyssée, il faut comprendre le fil conducteur. Le fil conducteur, et c'est vraiment la matrice de toute l'histoire de la philosophie. C'est, en fait, l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire d'un roi qui vit dans une petite cité qui s'appelle Ithaque, qui est marié avec une femme charmante, un Pénélope, il a un petit garçon, Télémaque, tous ces noms ont du sens, mais peu importe, on ne va pas faire cuistre. Et donc, c'est l'histoire d'un roi qui va être obligé de partir faire une guerre atroce, la guerre de Troie, qui est très sauvage, qui est très sanglante, qui est épouvantablement cruelle. Il ne veut pas partir parce qu'il vient d'avoir ce petit garçon, il voudrait rester chez lui, mais il est obligé de partir. Et au fond, c'est l'histoire de quelqu'un qui va aller de la guerre à la paix, parce que finalement, il va revenir chez lui au bout de 20 ans. Il va aller de l'exil au retour chez soi. Il va aller de la haine à l'amour retrouvé avec son petit garçon qui a grandi, qui a 20 ans maintenant, avec aussi Pénélope, sa femme, qui est toujours là. Il va aller, en vérité, c'est ça le pitch, comme dirait Ardisson, il va aller du chaos à l'harmonie, c'est-à-dire de la vie mauvaise à la vie bonne. C'est une quête de la vie bonne. Et à la fin de l'Odyssée, il y aura trois critères de la vie bonne qui vont influencer toute l'histoire de la philosophie. Le premier critère, et c'est de vaincre les peurs. Le sage est celui qui a vaincu les peurs. Ulysse a vaincu la peur de la mort. Quand Calypso lui propose l'immortalité, il refuse. Il n'a pas peur de la mort. Le deuxième critère, pour aller très vite, les Grecs pensaient qu'il y a deux fléaux qui pèsent sur la vie humaine, c'est le passé et le futur. Mmh. Le passé, la nostalgie et l'espérance, ça nous empêche d'habiter le présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, sont des néants, des non-êtres. Seul le présent est et nous n'y sommes jamais. Le sage est celui qui parvient à habiter le présent. Pendant 20 ans, Ulysse est dans la nostalgie d'Ithaque ou dans l'espérance de retourner à Ithaque. Il n'est pas dans l'amour d'Ithaque. Le sage est celui qui parvient à éviter la nostalgie à l'espérance pour être dans l'amour de ce qui est, dans la réconciliation avec ce qui est. Et le troisième critère, les Grecs pensaient que le monde est éternel, le cosmos, comme ils disent, est éternel, et que nous sommes comme des petits fragments de puzzle, le cosmos tout entier étant le grand puzzle. Et comme le puzzle est éternel, le cosmos est éternel, quand on parvient à s'ajointer, à s'ajuster à l'ordre du monde, comme Ulysse quand il revient enfin à Ithaque au bout de 20 ans, alors on s'aperçoit, le sage s'aperçoit qu'il est lui-même un fragment d'éternité. Et c'est une manière de vaincre la mort. Et donc, c'est ces trois critères-là qui vont définir la vie bonne. Et on les retrouvera aussi bien chez Platon que chez Aristote, que surtout chez les stoïciens. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas du tout un itinéraire géographique. Là, Cousteau était complètement à côté de la plaque. La géographie n'a aucune importance dans l'affaire, mais c'est vraiment un itinéraire métaphysique d'un être qui va aller, encore une fois, de la vie mauvaise à la vie bonne. C'est une quête du salut, c'est une quête de la vie bonne pour les mortels. Donc c'est ça qui fait que ça nous parle encore. Là, évidemment, il y a plein d'épisodes magnifiques.
C'est important d'avoir cette définition, cette explication.
Le fil conducteur est génial. Quoi. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ça, sinon ça n'a plus de sens.
Et pour bien relire l'Iliade et l'Odyssée, qui infuse aussi votre ouvrage 50 nuances de grec,
oui, évidemment,
Jules.
Ulysse et tous les épisodes de l'Odyssée sont extrêmement présents. Il y a tout un épisode qui s'appelle « Faites entrer l'Odyssée » et on est vraiment représenté par Christophe Ondelat, comme ça les histoires les histoires d'Agamemnon et des Atrides aussi sont bien...
Elles sont incroyables.
Ouais, il nous a donné sa définition, Luc Ferry, de la mythologie. Si je vous demande ce qu'est un mythe, au fond, pour vous, Jules.
Oh bah, je ne sais pas si moi j'ai une définition personnelle de la mythologie. Je ne saurais pas, pour le philosophe en fait, je ne sais pas comment on fait la différence, je dirais, entre le mythe, le récit fondateur.
Oui.
En fait, moi, au départ, je viens d'ailleurs de l'histoire et de l'anthropologie avant d'être dessinateur de BD. Moi, j'avais une formation en histoire chinoise. Alors,
bah oui,
on était assez loin de l'histoire grecque.
Il y a une
excitation du comparatisme, justement, de ces grands récits fondateurs des civilisations, où on trouve des choses, même dans les civilisations précolombiennes, qui peuvent faire écho à la mythologie grecque. Et probablement, les mythes, c'est l'expression d'un fondamental de la condition humaine. Et de son rapport justement au cosmos, à la nature. Les mythes, c'est du sens sur les interrogations primordiales de la conscience humaine, sur le sens de la vie. Voilà.
Donc ça passe aussi par une morale, par un enseignement.
C'est un grand récit du sens de la vie.
C'est pas vraiment la morale, parce qu'en fait, les dieux sont tous des crapules.
Oui. Il y a beaucoup d'immoralité quand même dans cette mythologie.
La vraie question, c'est la question de la mort, c'est-à-dire la question du salut, si vous voulez, la question de la vie bonne, du sens de la vie, quoi, question de la vie bonne pour les mortels. Donc la morale est assez peu présente en vérité. Il y en a, bien sûr, il y a une morale héroïque, il y a une morale des grands héros.
Mais il y a une forte tragédie.
Mais le vrai souci, c'est qu'est-ce que c'est que la vie bonne ? Comment ? On va mourir, les dieux ne meurent pas, les animaux meurent mais ils ne le savent pas, en tout cas c'est l'idée grecque. Nous savons que nous allons mourir, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Et ça, c'est la question d'Ulysse. Voilà. Alors, les Grecs distinguaient mutos et logos, c'est-à-dire que logos, c'est la raison, le mythe, malgré tout, c'est une fiction, c'est légendaire, ce sont des personnages qui n'ont pas existé. Mais la thèse de, au fond, moi que je défends, mais je ne suis pas le seul à le faire, c'était la thèse de Jean-Pierre Vernant aussi, c'est que la philosophie n'est au fond qu'une sécularisation, une version rationalisée, si vous voulez, pour parler plus simplement, des grands thèmes de la mythologie grecque. Et donc la mythologie grecque, elle a un gros avantage sur la philosophie, c'est pour ça que moi elle m'intéresse plus maintenant que la philosophie, c'est qu'elle raconte, on est dans le récit, ce qui fait qu'un enfant de 5 ans peut comprendre, il peut lire pratiquement n'importe quel mythe, en tout cas on peut le lui lire, les parents peuvent le lire et l'enfant peut comprendre 1000 choses, un peu comme pour les évangiles par exemple. On peut très bien comprendre les évangiles, comprendre des choses des évangiles quand on a 5 ans, mais on peut aussi passer 40 ans de sa vie comme théologien pour expliquer le sens de de telle ou telle parabole du Christ. Bon, c'est la même chose pour la mythologie, et ça c'est un gros avantage sur la philosophie, c'est que la mythologie elle est touchante, un peu comme la musique ou comme les arts d'une certaine manière. Elle nous parle là où, si vous lisez la lettre à Ménécée par exemple, si vous lisez les grands textes d'Épicure ou d'Épictète, c'est très compact, c'est très difficile à lire.
Elle est aussi parce qu'elle est tragique.
Voilà, mais ce lien avec les passions et les affects, les psychanalystes s'en sont emparés, évidemment. C'est un des grands sous-bassements de la pensée psychanalytique, c'est aussi ces grands apports des mythes. Ils servent énormément à plein d'égards.
Vous êtes passionnants, messieurs Jules et Luc Ferry. Hélène veut réagir, elle a étudié la mythologie à l'université, elle va nous en dire un mot.
Combien de temps ?
Hélène,
non, c'est pas la belle Hélène,
c'est Hélène de Chambray-les-Tours, qui est certainement très belle
c'est
aussi.
Une descendante.
À tout de suite,
oui,
sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Suite de notre émission consacrée à la mythologie grecque jusqu'à 11h sur Europe 1, nous sommes avec Luc Ferry qui publie deux livres qui vont sortir dans une nouvelle collection, Ulysse ou l'homme aux mille ruses et Thésée ou la loi du courage. Cette nouvelle collection de livres illustrés pour les enfants de 9 ans paraîtra mercredi prochain aux éditions Glénat. Et puis Jules est aussi avec nous, dessinateur, il a notamment illustré la BD 50 nuances de grec, on adore ce titre, aux éditions d'Argo. Nous sommes baignés par cette mythologie grecque, preuve de sa résonance, de sa permanence, et vous les expliquez si bien aussi, ces leçons qu'on peut tirer sur la vie bonne, sur le sens de la vie, sur la nécessité d'être en harmonie aussi. Mais sur ce sens de la tragédie chez les Grecs, nous faisions une émission vendredi sur les élections européennes. N'oublions pas que nous sommes sur un continent baptisé Europe parce qu'on est aussi dans la suite d'une mythologie grecque. Europe, qui était-elle
C'est Europe kidnappée, violée. C'est pas des très bons auspices au départ pour, si vous voulez, relier aux élections européennes.
Kidnappée, ça s'appelle Europe 1. Hein,
kidnappée par
Europe 1. Sur Europe 1, voilà.
S'il vous plaît. Mais kidnappée par Zeus.
Vous savez, les métamorphoses, ça n'a pas de limite.
Zeus métamorphosé en taureau blanc, vous nous le décriviez tout à l'heure.
Voilà, oui, Zeus, lui, il a tous les coups sont permis pour lui, donc il se métamorphose en taureau.
C'est le cas
euros et en avant, c'est parti.
Chantal nous écrit du Bousquet en Gironde ce que Luc Ferry est en train de dire. Je le disais à mes élèves quand j'étais professeur de français. Les mythes permettent de comprendre les comportements d'humains, des humains, passer des mythes à notre réalité, c'est important aussi. Vos invités ont dit que les Romains avaient repris la mythologie grecque comme une simple copie. Or, ce qu'ils font eux-mêmes, les philosophes, c'est la même chose. Ils font pareil que les Romains et pourtant, ils parlent de façon dépréciative des Romains, nous dit Jacques.
Bon, c'est pas exactement ce que je voulais vous dire. Pas très beau, hein, mais oui, bon, voilà. Pardon, c'est mon côté cuistre, mais...
vous nous citiez les 120 expressions aujourd'hui héritées de cette mythologie grecque avec cette permanence des mythes qui nous captivent. Je voudrais qu'Hélène nous en dise davantage. Vous nous appelez de Chambrelles-les-Tours. Chère Hélène, bonjour. Passionnée de mythologie également.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Passionnée de mythologie, donc.
Oui, totalement. Merci d'ailleurs pour toutes vos belles émissions. Je vous suis tous les jours quand j'ai l'occasion de vous suivre. C'est vraiment merveilleux.
Ah, c'est adorable. Mais vous, avec des invités comme ça, moi, j'ai pas grand-chose à faire sinon à écouter comme vous.
Tout à fait. Pour moi, c'est un sujet vraiment passionnant que j'ai particulièrement étudié pendant plusieurs années à l'université. Mm-hmm. J'ai eu la chance de pouvoir étudier durant tout mon master. J'ai pris l'option d'étudier à travers le prisme des épisodes de Star Wars. Tout ce qui était mythologie, croyance, à travers le monde justement, faire des recoupements, voilà, tout ce qui était artistique également.
Et vous avez commencé avec
les costumes,
Star Wars.
Oui, enfin, j'étais passionnée de mythologie depuis toute petite. Ouais. J'ai eu aussi justement une professeure d'histoire géographie en sixième qui nous racontait ça comme des histoires, donc c'était ça m'a emmenée justement, c'est comme ça que ça m'a passionnée encore plus. Et quand je suis arrivée, que j'ai vu les premiers épisodes de Star Wars, enfin d'ailleurs, sur partie des épisodes 1 et 2 qui m'ont le plus parlé, j'ai vu toutes ces résurgences qui me sont apparues directement. Donc après, j'ai passé d'abord 17 mois sur le Master 1, et après, je ne sais combien de mois sur le Master 2 pour étudier à la fois toutes les croyances, toutes les résurgences architecturales, costumes, etc., à travers les cinq épisodes de Star Wars parus à l'époque.
Alors, vous comprenez cette démarche, Jules, vous ?
Je vois qu'Hélène est une Jedi, en plus d'être une descendante de la belle Hélène
voilà,
de Troyes.
De Troyes.
Et effectivement, c'est sûr que la culture populaire, jusqu'aux jeux vidéo, et évidemment le cinéma, le grand spectacle, ont digéré, remâché toute cette mythologie, et en ont fait une espèce de cocktail géant, quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui. Effectivement, il me semble qu'il y a une religion Jedi, aujourd'hui, reconnue officiellement, notamment aux États-Unis. On peut un peu créer sa petite religion toutes les deux semaines, oui, si on a envie. Oui. J'aimerais bien d'ailleurs créer une petite religion monothéiste, polythéiste, un petit peu grec, de nouveau.
Monothéiste, ça tirait bien.
Ouais, monothéiste, j'ai un côté télévangéliste, c'est vrai.
Mais Maître Yoda est génial, oui. Voilà. Moi, c'est mon maître en sagesse, d'ailleurs. Il y a une phrase de Maître Yoda qui
il est habillé comme Maître Yoda, Luc Ferry, vous ne le voyez pas,
j'ai un peu les mêmes oreilles aussi. Non, mais j'aime beaucoup cette phrase, quand 900 ans tu auras, moins en forme tu seras, ça. Tu vas trouver ça magnifique. Mais... Non, alors, si
il
je peux prendre
les labos pharmaceutiques.
Allez-y,
à la fois,
allez-y,
c'est tout à fait vrai ce que j'entends là. Il y a des résurgences. Du reste, Jacques Glénat, donc l'éditeur, s'est beaucoup intéressé à l'origine des monstres. Il y en a beaucoup qui viennent de la mythologie grecque, il y en a beaucoup qui viennent aussi de Jérôme Bosch et Bruegel, par exemple, dans la BD actuelle. Bon, et donc, il y a des résurgences. En même temps, si je peux me permettre de jouer le rôle du vieux mammifère, c'est. Ce qui est grandiose aussi dans cette mythologie grecque, c'est que malgré tout, c'est une vision du monde qui est très loin de la nôtre. Il y a aussi la distance qui est intéressante. Il ne faut pas la gommer parce que cette cosmologie, c'est-à-dire cette idée qu'on vit dans un monde harmonieux, juste, beau et bon, ce que les Grecs appelaient le cosmos, qui d'ailleurs en français a donné le mot cosmétique. Cosmétique, c'est quoi ? Bien sûr, ça vient de cosmos. La cosmétique, c'est l'art au départ du maquillage qui vise à mettre en valeur ce qui est harmonieux dans un visage et peut-être à dissimuler ce qui est moins harmonieux dans un visage. Et donc, cette idée qu'on vit dans un cosmos harmonieux, elle explose avec Newton, avec le 18e siècle, avec la physique du 18e siècle, où on va passer, il y a un très grand livre d'un très grand épistémologue, un très grand philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Coiré. Et le titre du livre est génial, ça s'appelle « Du monde clos à l'univers infini ». Ce monde clos des Grecs, ce monde qui est représenté comme une boule, un cosmos harmonieux, il vole en éclats avec la physique de Newton, et nous nous ne sommes plus dans le monde des Grecs. Ce qui fait que la philosophie va être obligée d'inventer d'autres réponses que les réponses grecques. Donc le paradoxe des Grecs, c'est que ça nous parle encore, mais ça nous parle par-delà un monde qui a disparu, qui est un monde qui est complètement distant du nôtre. Et au fond, il en va dans l'histoire de la philosophie comme dans l'histoire des arts, et pas l'histoire des sciences. Les arts anciens nous parlent encore. Hein, vous pouvez très bien aimer, la musique de Bach, préférer la musique de Bach à celle de Boulez, par exemple. Bon, donc vous pouvez aimer des mondes anciens dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la philosophie aussi, mais il ne faut pas gommer cette distance. Autrement dit, moi j'adore l'Empire contre-attaque. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai génie dans ces films, dans ces cinq films, la Star Wars et l'Empire contre-attaque, surtout les deux premiers, parce qu'au fond, le metteur en scène, il a su inventer un monde avec des personnages. C'est assez génial comme invention. Mais ce n'est pas la mythologie grecque. C'est-à-dire le message est évidemment complètement différent parce que ce message des Grecs, il était lié à une réponse cosmologique, une réponse par rapport au cosmos qui était, encore une fois, la vie bonne, c'est la mise en harmonie avec l'harmonie du monde. Alors on peut retrouver ça dans l'écologie contemporaine, mais c'est une des raisons pour lesquelles les grands philosophes de l'écologie contemporaine, Hans Jonas par exemple en Allemagne, ils reviennent aux Grecs. Ils disent, mais attendez, les Grecs avaient un message, mais c'est par-delà une distance, par-delà une critique du monde moderne, par exemple. Donc, je ne veux pas développer ça, mais ne gommons pas la distance. La distance fait partie du charme.
Ah oui,
sans distance, il n'y a pas d'amour non plus. D'ailleurs, il faut une distance.
Avec d'Ulysse à Thésée, à chaque fois l'éclairage suivant dans vos livres et dans vos BD, Luc Ferry, un mythe, un héros, une vertu. Idem avec Midas ou Jason. On en parle jusqu'à 11h, encore quelques minutes avec nos invités, Jules et Luc Ferry, pour nous parler de l'empreinte mythologique dans notre société. Que reste-t-il de la mythologie dans notre société ? Alors, on parlait des expressions tout à l'heure, il y a aussi les marques, hein. Midas, Hermès, Athéna, l'Olympia.
Vous voyez,
hein, il y a des
les Champs-Élysées.
Héraclès.
On
est baigné par la mythologie grecque, par Zeus et par ses descendants. Et vous vouez à Zeus une belle planche de dessin dans votre 50 nuances de grec.
Oui, c'était un petit peu quasiment le dessin d'ouverture des 50 nuances de grec. C'est une avocate qui est en train de regarder un dossier comme ça en disant, alors vous avez eu tel enfant, alors avec Héra, vous en avez eu 4, si on comptait Phaïstos, avec Maïa, vous avez eu Hermès, etc. etc. Et dit, bon, écoutez, ça ne va pas être facile, monsieur Zeus, préparez-vous à payer une grosse pension alimentaire.
Voilà, évidemment, parce qu'il en a eu des enfants, et ces enfants nous font parler, nous font encore rêver, des mythes comme des repères pour nous interroger, finalement. Vous l'avez bien dit, l'un et l'autre, Jules et Luc Ferry, avec cette nécessité de s'ancrer, vous qui aimez l'histoire et qui aimez le récit, y compris d'ailleurs dans le dessin, on est dans cet imaginaire et dans cette imagerie.
Voilà, cet album, 50 nuances de grec, il est bâti de manière un petit peu particulière en plus, parce qu'il y a une planche de bande dessinée avec à chaque fois un gag, une entrée vers un mythe, vers un héros, et puis en regard, un petit texte, un petit essai de Charles Pépin, parce qu'on n'en a pas tellement parlé, mais lui c'est un philosophe, et du coup il approfondit un petit peu, où il discute mon approche de cette mythologie, et ça montre un petit peu qu'il y a à la fois un débat en permanence, c'est-à-dire que il y a plein une pluralité d'interprétations possibles, plein de liens qu'on peut faire, et lui il rajoute une dimension. Donc c'est un peu un livre qui marche sur deux pattes, à la fois des gags de bande dessinée et ces mini essais là qui donnent envie à la fois d'aller plus loin à l'intérieur de cette mythologie et de s'interroger sur nous-mêmes. Il y a une espèce de retour réflexif qui passe par le rire, et pour moi ce rire, cette liberté, c'est très très grec finalement.
C'est chez Dargaud, et puisque vous parlez de différentes interprétations, Luc Ferry, on a quelques minutes encore. Parlons d'Oedipe.
Alors oui, il y a un très bel article de Jean-Pierre Vernon qui s'appelle Oedipe sans complexe et qui montre à quel point Freud s'est trompé. Je vous raconte là aussi le fil. Alors, le père d'Oedipe s'appelle Laios, qui en bon latin a donné Laius. D'ailleurs, c'est là encore une de ces expressions qui est devenue courante. On dit un laïus. Pourquoi ? Parce qu'à l'école polytechnique, on avait demandé à des polytechniciens, à des jeunes élèves, à des candidats à l'école, d'imaginer le discours de laïus, donc à son fils Oedipe. Et ils avaient pexé, ils avaient fait une dissertation qui était assez mauvaise. On avait appelé ça un laïus. C'est de là que ça vient.
D'accord.
C'est juste.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une minute, ça va être terrible.
Le mythe d'Oedipe n'a strictement aucun rapport avec le complexe d'Oedipe. Ça a un rapport avec la question du destin. C'est une réflexion extrêmement profonde sur la part de liberté et sur la part de fatalisme qu'il y a dans nos vies. Laios, le père d'Oedipe, a violé un garçon, et le père de ce garçon a invoqué Apollon en disant « punissez-le. Et Apollon va punir Œdipe, il va punir le fils de Laïos, donc Œdipe, parce qu'il dit, si jamais Laïos a un enfant, il tuera son père. Et donc, en fait, c'est une réflexion tragique sur, encore une fois, la part de destin dans nos vies, parce que Œdipe est un type très bien, mais il va subir une catastrophe absolue, il va tuer son père, épouser sa mère, et il va s'aveugler après. Je vous disais tout à l'heure que la punition a toujours un rapport avec le crime commis, parce qu'il a été aveugle, il n'a pas vu ce qu'il faisait, il n'a pas vu qu'il tuait son père, il n'a pas vu qu'il épousait sa mère, donc il se crève les yeux pour se punir de son aveuglement. Et encore une fois, c'est une réflexion très profonde, non pas sur la question de l'inceste, mais sur la question de la part de liberté et de la part de fatalité absolue qu'il y a dans nos vies. Quand les parents boivent, les enfants trinquent. C'est ça l'histoire de Œdipe. C'est-à-dire, le père a commis un crime.
Bacchus.
Bacchos en grec d'ailleurs aussi, c'est là que ça vient, Bacchus. Le père a commis un crime, le fils va le payer. Et donc, malheureusement, toute sa vie sera dominée par la fatalité, quel que soit par ailleurs le fait que ce soit un très bon roi de Thèbes et un très bon père.
Moralité, revenez aussi à l'épure de ces mythes,
Il faut toujours revenir au sens originaire, parce qu'il est, à mon avis, beaucoup plus fort que la plupart des interprétations.
Avec cette sagesse des mythes, merci Luc Ferry.
Merci à vous,
de Tantale à Jason, de Thésée à Ulysse, c'est passionnant pour les adultes et pour les enfants, Glénat et Glénat Jeunesse. Et merci, cher Jules, 50 nuances de grec aux éditions d'Argo, 150 000 exemplaires vendus, la suite arrive, et aussi à retrouver sur Arte. Hein.
Sur Arte, puis la saison 2 aussi. Les épisodes d'Arte, on les voit sur Internet, on peut les retrouver tous avec des voix familière.
Notamment celle de Nico Saliagas
qui joue Héros Saliagas et Mathieu Noël qui joue précisément Œdipe, qui est très très bon.
Et ben voilà.
J'embrasse les parents de Mathieu Noël.
Et bouclé. Merci chers amis, merci, c'était passionnant. À demain.
C'était Wendy Bouchard. À demain dans un instant, Anne Roumanoff.